Premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière en direct sur La Première. Notre première invitée est un éloquent et exubérant personnage. Écrivain d'origine camerounaise, pays dans lequel il vit jusqu'à ses 18 ans, il arrive en Suisse du côté du Tessin pour ses études avant de rejoindre Lausanne puis Genève où il vit aujourd'hui. À 35 ans, il signe son cinquième roman, La Promesse de sa Fale Excellence, aux éditions Zoé. Écriture rythmée et inventive, pleine de feux d'artifice, son livre est une critique métaphorique de la dictature de Paul Biya, président du Cameroun depuis 40 ans. Très libre, ouvertement gay, passionné de poésie et de marches nocturnes, il s'investit de plus en plus dans la formation de jeunes auteurs et autrices dans différents pays d'Afrique. Notre deuxième invité est un photographe hispano-genevois. Grand amoureux de l'argentique, il travaille en noir et blanc et préfère l'action aux scènes parfaitement étudiées. En ce moment, au Bain des Paquis à Genève, il propose Homo Artifex, une trilogie qui comporte une exposition, un film et un livre de photographie. Essentiellement prise en Afrique de l'Ouest, ces images parlent du quotidien des individus qui l'immortalisent, tout en laissant deviner la problématique migratoire. Quinquagénaire ayant beaucoup bourlingué, avec Terre des Hommes et La Croix-Rouge notamment, il est aussi le père d'un jeune de 27 ans et un grand, grand voyageur de l'Amérique du Nord au Sud. Notre premier invité est Max Lobé, notre second invité est Denis Ponté. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Denis Ponté.
Bonjour.
Bienvenue
merci.
À vous.
Merci de l'invitation.
Vous pouvez rapprocher le micro de vous un petit peu.
Oui.
Vous serez plus confortable. Voilà. Okay. Max Lobé, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous aussi.
Merci beaucoup. Merci pour cette invitation.
Avec une grande joie. Denis Ponté, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué. Comme c'est de coutume dans Premier Rendez-vous, pour débuter l'émission, vous avez choisi de nous parler de quoi?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que ma vie est de rencontres, est faite de rencontres. Mais il y en a une qui m'a passablement marqué, c'était en Amérique latine où j'étais pour une longue durée, à peu près une année, je travaillais pour Terre des Hommes et une coopérative de café. Et dans mon passage en Colombie, j'avais un appareil photo tout neuf qui est tombé en panne. Et j'ai dû me débrouiller pour le faire renvoyer en Suisse, parce qu'on pouvait le faire réparer qu'en Suisse. Et je devais attendre son retour. Je m'étais arrangé avec l'ambassade suisse de Quito. Et puis, c'était juste avant Noël, Nouvel An, donc ça allait prendre encore plus de temps. J'étais bloqué, donc j'ai décidé de partir dans une ville à la frontière de l'Amazonie pour simplement me ressourcer. Surtout que la Colombie, ça avait été assez mouvementé comme expérience. Et arrivé là-bas, bien sûr, je me suis tout de suite fait repérer comme étranger. Et un Amérindien est venu me voir qui proposait des voyages touristiques dans des villages, soi-disant en Amazonie. Et bien entendu, moi, j'ai décliné l'invitation parce que bon, je connaissais déjà, j'ai traversé, dans le passé, j'avais traversé l'Amazonie déjà une fois. Et je l'ai gentiment refusé
conduit.
Okay. Et puis, on a passé un bon moment, on a partagé un bon moment. Et puis, juste avant Nouvel An, il s'est débrouillé, bon, ça devait pas être très compliqué pour lui, mais il s'est débrouillé pour venir me chercher à l'hôtel et me demander qu'est-ce que j'allais faire pour Nouvel An. Comme je connaissais personne, je me suis dit, rien, quoi, moi, je me laisse vivre. Et il me dit, je t'invite à venir passer Nouvel An dans ma famille. Et là, je suis parti et on a passé presque 2 semaines absolument extraordinaires à faire la fête, à être dans son village, dans sa famille. Et il y a un lien très fort qui s'est tissé. Et à la fin, il m'a proposé de m'emmener. Il voulait absolument m'emmener dans la jungle. Et à force d'insistance, je lui ai dit « Ok, mais je pose 2 conditions. Une, on va dans un endroit qui est très difficile d'accès, qui est très compliqué pour y arriver. Et la deuxième condition, c'est un endroit où tu as jamais mis les pieds. » Et il a relevé le défi. Et on a fait un voyage, mais absolument incroyable. Ça, c'était une rencontre très forte. Et je suis resté en contact plusieurs années avec lui et sa famille. Puis après, on s'est un peu perdu de vue. Mais
c'est quelqu'un qui vous a amené dans un endroit merveilleux, comme un trésor de lieu, en fait, c'est ça? Et
tout
pour lui et pour vous, et une première rencontre pour le lieu, pour vous et pour tout le monde, en fait, c'est ça?
Tout à fait. Et ma vie est souvent quand je pars en voyage, c'est souvent comme ça. Je cherche, j'aime bien l'aventure avec un grand A, sans être une tête brûlée. Et souvent, ben, je me retrouve...
Avec une forme d'exigence, une pointe, on l'aura compris quand même. Peut-être que ça fait partie de votre identité, Denis Ponté, on va le vérifier. Mais avant ça, Max Lobé, c'est votre tour de nous raconter un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué.
Alors, un premier rendez-vous qui m'a beaucoup marqué, il s'agit simplement d'une rencontre littéraire que j'ai eue, je pense, il y a deux printemps, il y a exactement 2 ans, c'était à la Fondation Michalski. Il y avait un festival littéraire là-bas qui s'appelle le Bibliotopia, quelque chose comme ça, et j'étais en rencontre littéraire avec Aminata Forna, qui est une grande écrivain anglaise, irlandaise même, avec des origines sierra-léonaises, et puis j'étais avec justement la personne qui m'a le plus marqué.
Alors c'est qui?
C'est Juan Gabriel Vázquez.
Juan Gabriel Vázquez.
Exactement. Okay. Rien à voir avec García Márquez, uh-huh. Mais Vázquez. Il fait partie exactement de cette génération d'écrivains colombiens. Hein, on y retourne. Colombiens comme Santiago Gamboa, qui fait notamment des polars, des livres noirs. Et lui, il venait présenter Le Corps des Ruines.
Le Corps des Ruines.
Le Corps des Ruines. Et on parlait en gros de comment de la fabrique du roman, et je l'ai entendu parler de sa cuisine de roman. Il citait beaucoup de philosophes, il remontait jusqu'à Kant, Platon, et à un moment, j'ai eu un surgissement, une fulgurance comme d'habitude, c'est-à-dire je ne sais pas contrôler l'explosion. je n'arrive pas à contrôler ce qui doit sortir. Peut-être c'est un peu, comment dirais-je, précoce, mais non. Et j'ai dit, mais vraiment, vous lisez tout ça? Et il m'a dit, oui. Il a marqué un silence et il a dit, oui, je lis tout ça parce que ça m'aide à écrire le plus précisément ce que je veux. Et je pense que c'était la première fois qu'on me répondait de cette façon-là, parce qu'on dit qu'un écrivain lit beaucoup, mais ça dépend de ce qu'il lit. J'en suis profondément convaincu aujourd'hui. Il suffit pas, c'est bien, hein, de lire que de la littérature,
mais ce surgissement là, Max Lobé, est-ce qui vous a tout à coup amené à exploser, c'était quoi? C'était une...
parce que je me suis dit que
vous,
moi,
vous lui avez parlé
là,
j'ai pas compris l'essence de ce surgissement.
Bien sûr, mais je venais présenter Loin de Douala et Long from Douala maintenant en anglais, mais jusque là je n'avais jamais eu besoin de lire de la philosophie pour écrire en roman. Donc ça a tout chamboulé dans ma tête. Sur le moment, je ne me suis pas senti bébête. C'est un peu plus tard, en y réfléchissant, je suis rentré discuter avec lui, et le résultat est la promesse de sa femme d'excellence. Ça veut dire que pour écrire
ce livre... C'est votre dernier,
livres,
ça. Chez Zoé, ouais.
Voilà, j'ai beaucoup lu de la philosophie, notamment Arendt, Anna Arendt, et pas les systèmes, hein, mais les origines du totalitarisme, Schopenhauer avec la représentation que nous faisons du monde, ou encore Machiavel et le Prince. Je trouve ça très intéressant pour pouvoir donner du muscle, pas de la graisse, rien que du muscle aux personnages, leur donner vraiment la constitution d'un marathonien, pas d'un sprinter, d'un marathonien. On enlève tout ce qui peut être superflu, viande de Suisse, tout le reste n'est que garniture. On garde de la viande suisse et on essaye d'injecter dedans des notions philosophiques. Le roman est là pour nous permettre de comprendre la philosophie par le biais d'une histoire. Je l'ai compris finalement.
Max Lobé, merci pour vos explications. Et dans ce roman, La promesse de sa fale excellence, c'est une écriture justement où du jaillissement, il y en a à gogo. Il y a des feux d'artifice, je le disais en introduction. C'est une langue qui est très inventive, qui a un mélange de différentes aussi Voilà, il y a du français, mais il y a du quoi encore?
Il y a du français, il y a toutes les langues que je parle, il y a de...
Le dialecte camerounais, des dialectes.
Des dialectes camerounais, mais l'italien, l'anglais, l'allemand, un peu de créole même, bah parce que vous savez, quand on est dans ce flux de mots à l'arablésien, à la Garcia Marquez, ce n'est plus le mot en soi qui est fondamental, mais c'est ce que nous renvoie le mot, c'est ce à quoi il fait allusion dans la représentation.
C'est pour ça que c'est très incarné.
Bah, bien sûr.
Et puis c'est aussi très grivois, Max Lobet.
Bah, parce que je le suis.
Avec sa femme Excellence et comment elle s'appelle déjà?
La Clitaltesse.
La Clitaltesse, s'il vous plaît. Bon, Denis Ponté, ça vous donne des images?
Oui, bah, je vois qu'il y a une passion, il y a une richesse des mots, il y a beaucoup de réflexions et ça, je trouve vraiment quoi, ça me touche parce que je vois la passion. Je pense qu'on peut se tutoyer. Je vois la passion qui jaillit et ça me donne envie de lire. Merci beaucoup.
Et je dois rappeler aux éditeurs que j'ai reçu, mais alors Noël
un tas
avant
de bouquins.
L'heure, beaucoup de cadeaux de Denis Ponté. Et j'en suis très très ravi.
C'est magnifique, oui, Denis Ponté. Vous êtes venu comme le Père Noël avec différents livres, que ce soit Homo Artifex, qui est donc à l'honneur en ce moment au Bain des Paquis à Genève. C'est donc une exposition de photos, un livre et puis aussi une projection qui aura lieu en fin de semaine ainsi qu'un peu plus tard au cinéma bio à Genève. Et puis vous êtes venu aussi avec Face à elle, un livre sur des femmes voilées ou pas, enfin en tout cas des femmes musulmanes. Et aussi encore d'autres choses. Mais ce qui est assez étonnant, Denis Ponté, c'est que vous êtes venu avec votre appareil photo et en fait vous n'arrêtez pas de nous mitrailler, c'est très drôle. J'ai jamais eu ça, un photographe qui nous photographie pendant l'émission, c'est très discret. C'est votre appareil qui vous permet justement de tenir debout sans avoir l'air de photographier, parce que c'est... Comment ça s'appelle cette technique?
Oui, il a un viseur qui permet de donner l'impression qu'on regarde les pieds alors que je vous regarde. Bah oui, la photo, les mots pour toi c'est la passion, moi c'est les images. Et en même temps, c'est un endroit privilégié parce que vous êtes tous les deux absorbés tout à coup dans la discussion et je peux complètement m'effacer et puis capter des moments et puis voilà.
Zoup.
La seule chose, c'est que nous portons des masques. Je trouve ça un peu bizarre. Je n'aurais pas la plus belle gueule dans les photos.
Oui, alors il y a plein de moments de la vie maintenant où on s'occupe d'une certaine part de l'expression. Mais bon, on va essayer de vous faire parler. Enfin, je vais essayer de vous faire parler parce que c'est bien mon travail. Denis Ponté, Max Lobet, vous allez vous poser des questions et vous faire parler les uns les autres aussi. Max Lobet, vous avez quelques minutes pour en savoir plus sur Denis Ponté. Je me retire du micro, c'est à vous.
Alors, je voudrais savoir, cher Denis, comment vous êtes arrivé à la photographie? C'est quand même pas un métier simple. J'ai quelques amis photographes et en plus, avec la crise que nous traversons, il me semble que ce ne doit pas être facile. Et puis, la deuxième question, c'est comment représenter une image? Quand on prend une photographie, bien sûr, dans la nature comme ça, on voit quelque chose qui peut nous rappeler plusieurs choses, autre chose. On voit par exemple une maison. Si on photographie une maison, ça peut nous rappeler, je ne sais pas, l'enfance, le grenier, peut-être les disputes des parents, peut-être le premier amour. Mais vous, qu'est-ce que vous cherchez à communiquer quand vous prenez en photo quelque chose, un objet, une personne, un objet de regard?
Alors, je vais répondre à la première question. La photographie a été ma passion assez jeune, mais sans arrière-pensée. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrivé quand je passais la maturité, j'ai tout arrêté en plein milieu. Et j'ai eu l'occasion, parce que j'avais l'occasion de rentrer, faire une formation dans la photographie. Et voilà, je me suis lancé. Je suis plus tout jeune, j'ai 56 ans. Et c'était aussi une période où c'était beaucoup plus facile. Ça, c'est clair, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui.
Maintenant, il n'y en avait pas tellement.
Si, il y en avait, mais il y avait de l'argent. On envoyait facilement quelqu'un, même à l'autre bout du monde, pour faire des photos, etc. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. En même temps, moi, j'ai toujours cherché à garder la liberté, parce que la photo, c'est une passion. Et j'ai jamais voulu que mon métier devienne contraignant et que je perde cette passion. Donc je suis assez exigeant dans ce que je fais, dans ce que je choisis. Maintenant, par rapport à la représentation de la de l'image, des images que je fais, c'est toujours en lien par rapport à ce que je photographie. Il y a toujours un échange. Je suis peut-être un voleur d'images en soi, par le fait d'être photographe, mais je le fais toujours en lien avec les gens. Soit des fois il y a de l'instantané, hein, les photos de rue, il y a des choses qu'on voit, ça on réfléchit pas, c'est comme la couverture du livre par exemple, c'est une photo, je l'ai vue, c'était une seconde, je savais que c'était cette seconde maintenant, et sinon c'était il y avait plus cette magie, cette émotion. Donc ça c'est aussi un réflexe.
Parce que je vois que sur un mot artifex, un de ces livres que vous m'avez offert, il y a notamment des jeunes femmes qui manifeste, je pense, dans le cadre du Black Lives Matter. Pour un cliché comme celui-ci de la couverture, à quel moment vous vous dites c'est le bon ?
Comme je viens de le dire, c'est vraiment du live, quoi. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est là, et puis et ça c'est le propre de la photographie, parce que le déclenchement, c'est on va capturer une fraction de temps
c'est et du on feeling, sait. Donc, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est le feeling, et puis c'est sûr, si c'est avant ou après, c'est fini. On est à côté. Donc ça c'est vraiment un ressenti. Puis après, j'adore faire du portrait, j'adore m'investir avec les gens, et je photographie très près. Donc, je suis pas invisible. Il y a toujours une relation. Il y a toujours quelque chose qui se passe entre les personnes et moi. Et dans le travail au mot artifex, ce qui était intéressant, le départ du travail, c'était une rue à Abidjan, dans le quartier de Marcory où j'habitais. Parce que j'étais là-bas pour un autre projet et j'avais beaucoup de temps. Et le feeling, j'étais tellement intégré, le feeling se passait tellement bien avec les gens que c'est les gens qui venaient me chercher. Parce que j'avais pas pris du temps avec eux, je les avais pas photographiés. Et ce que j'adore, c'est que j'arrive, même si je suis très présent, j'arrive à devenir invisible. Et là, il y a vraiment une magie qui s'opère, et voilà. Et en même temps, je suis pas, là, j'ai fait quelques photos cet après-midi, mais, je mitraille pas. On sent quand la magie est là.
Max Lobé, voilà, vous voilà totalement absorbé par la couverture de Homo Artifex. Homo Artifex, c'est un projet quand même assez important, Denis Ponté. Vous y avez, comment dire, réfléchi comme une trilogie dès le départ ou pas? Parce que vous vous dites d'abord, moi, je fais des photos plutôt en Afrique de l'Ouest, j'en ferai un bouquin plus tard. Comment est-ce que c'est venu de se dire, ok, je vais faire exister tout ça dans le cadre, voilà, du Bain des Paquis, qui est quand même un lieu iconique à Genève, avec aussi cette projection, une projection d'un film qui s'appelle justement comment?
Mon Artifex.
Aussi lui aussi. 5 portraits de migrants que vous avez rencontrés où ?
Alors, les migrants, je les ai rencontrés en Espagne. Comme je le disais avant, ma vie est faite de rencontres. Et puis ces rencontres m'amènent à me lancer dans des projets ou dans des directions. Et il y a 2 ans, j'ai été invité par une fondation, la fondation La Posta, à Valence, pour faire un travail justement sur la femme musulmane de Valence. Suite au travail
sur les femmes musulmanes
sur les
de Valence.
Femmes de Valence, okay. Les femmes musulmanes de Valence. Et puis j'habitais Valence même. Et puis au bout d'un moment, quand on avait fini de les workshops, l'exposition est en route. Là, je me suis un peu exilé. Je suis parti à une centaine de kilomètres de là. Et donc, je faisais des allers-retours. Et là, j'avais besoin d'un parking pour la voiture. Et en parquant la voiture, je rencontre un migrant qui aide. Les migrants se sont inventés le métier d'aider les gens à parquer. Comme je suis quelqu'un qui aime pas, et je sais que j'ai pas forcément raison, qui aime pas donner forcément de l'argent comme ça gratuitement juste pour le fait
bon
de...
Suisse, quoi.
Je ne sais pas. Mais par contre, j'aime bien aller plus loin. Donc tout de suite, j'ai posé la question, c'était Idriss, là, qui est en photo sur les cartes et sur l'affiche. Et tout de suite, on a échangé et je lui ai dit, tu fais quoi ce soir? Et on est parti, on l'a invité à manger au restaurant. Et c'est là où il m'a raconté son histoire. Et là, je me suis dit, mais là, il faut faire quelque chose. Et là est partie l'idée de rajouter au livre et puis à l'exposition un film documentaire. Et là, on a... j'avais pas le matériel, bien entendu, j'avais pas le matériel pour réaliser le film. J'ai fait un test et je suis rentré. J'ai pris des cours de prise de son et j'ai acheté un micro. On est retourné et puis on a tourné le film. On l'a fini juste au moment où c'était l'explosion du Covid à Valence.
Ok, et ensuite vous êtes revenu ici. Max oui. Lobé, ouais.
Mais c'est quoi la différence entre prendre des personnes en photo Et puis, tout d'un coup, devoir faire de la vidéo, traiter le son.
Bah, c'est complètement différent. Bon, moi, j'avais, c'est mon premier film documentaire. J'ai travaillé sur pas mal de films. C'est ma première expérience. Mais là, j'avais besoin de joindre la parole. J'avais besoin de transmettre le témoignage de ces personnes. Et là, la photo ne suffisait pas. Quand tu fais du portrait, le principal est vraiment d'essayer de sortir l'émanation de la personne. C'est pourquoi souvent, quand je fais du portrait, par exemple, je demande toujours à rencontrer la personne un jour avant, au moins un jour avant, juste pour partager une discussion, un café, m'approprier aussi la rencontre, et puis après, là, on fait le portrait. Et le portrait, je me suis tout de suite rendu compte qu'il serait pas, il serait réducteur. Et d'où cette envie irrésistible de faire un documentaire et de prendre ces cinq témoignages.
Homo Artifexer, un débat projection au Bain des Paquis, c'est dans le cadre du festival Histoire et Cité qui est terminé, mais bon, comme il y a eu le Covid, il y a un extra, on va dire ça comme ça. Ce sera ce vendredi 23 avril à 20h avec le nombre de places possibles selon les normes Covid. Oui. Alors ça, c'est les premiers arrivés, les premiers servis, c'est ça, Denis
oui,
Ponté?
Ce sera à 100 personnes et...
Et voilà. Et ensuite, ce sera au cinéma bio à Genève toujours. Ce sera le dimanche 2 mai à 11h. Voilà pour ce film. On y reviendra peut-être. Mais pour le moment, Denis Ponté, c'est votre tour de vous pencher sur la personne de Max Lobé et de lui poser des questions. C'est parti.
Moi, je serais curieux de savoir comment est venue cette envie d'écrire. Je vois que vous êtes très investi. Là, je le découvre. C'est une question que j'ai réfléchi en venant ici et qui me titille parce qu'en plus, je suis un amoureux du livre. J'adore les livres. Et moi aussi, j'aurais deux questions. C'est comment est née cette envie d'écrire? Et je pense que vous avez aussi une position par rapport au livre, à l'objet et au contenu, qui m'intéresserait de savoir exactement comment vous le vivez.
Merci de m'avoir envoyé ma question.
Copieur, c'est ça qu'il dit, Max Lobé.
Moi, quand tu m'as posé la question, j'y ai réfléchi parce que j'ai réfléchi sur toute la route et après je me suis
c'est
dit,
pas facile, il a la direct prime... en radio. Hein. Oh là là.
Non, mais pour parler de l'envie d'écrire, je pense déjà il faut dire à ceux qui nous écoutent que c'est pas, il me semble que ce ne soit pas tout à fait la même génération. Moi, je suis né au Cameroun, donc j'ai grandi dans une famille à peu près, en fait, des parents culturellement éduqués, instruits et tout, mais pas à tel point qu'on puisse dire, voilà, j'ai toujours pensé que je deviendrais écrivain.
Votre d'ailleurs. Maman voulait que vous soyez banquier, c'est ça?
Par ailleurs, pourquoi pas? Elle dit, bah, parce que moi, je me souviens que mon coming out en tant qu'écrivain a été beaucoup plus difficile que le coming out en tant qu'homosexuel. Bah, parce qu'on peut être homosexuel et banquier, alors qu'homosexuel et écrivain, quand même, c'est une punition. En fait, c'est une précarité qui nous guette. Et donc... pour rentrer à la question de Denis, je pense que c'est davantage l'envie de dire. Et d'ailleurs, ce serait une réponse aussi pour des jeunes frères qui voudraient écrire. Voilà. Et si on n'a rien à dire, je ne pense pas qu'on puisse faire cette littérature-là que je fais. Voilà, on peut écrire pour dire combien les tulipes sont belles et que le printemps est magnifique. Je le fais souvent, mais ça ne prend pas plus d'un paragraphe dans mes livres. Je pense que l'écrivain, à un moment, on a envie d'être témoin de son temps. Ce ne serait pas exagéré que de dire que je suis un intellectuel. En tant qu'intellectuel, on voit, on prend du temps, on prend sa distance, on recoupe. Par exemple, si j'avais rencontré, et ça a déjà été le cas, un migrant qui me raconte son histoire, bien sûr qu'on est touché par toutes ces histoires de migration, bien sûr. Mais si je dois aborder cette question, j'ai besoin de recouper, je cherche pas la vérité, mais je cherche des faits qui soient plausibles, qu'on puisse dire pour douter de quelque chose. J'aime plus le terme douter que critiquer. Je trouve qu'on a passé le temps. Il y a des générations et des générations d'artistes qui ont passé le temps à critiquer. Ça n'a jamais rien donné. Peut-être est-il venu le temps de douter à haute voix. De douter à haute voix, de faire une réflexion arborescente. J'appelle ça des tree growing thinking.
On n'assène pas les idées
comme on dit souvent dans le corporate. Non, on regroupe les idées et on essaye de les faire fleurir. Donc je pense c'est venu avec le temps, parce que j'ai été éduqué comme, je pense, une grande partie de personnes. C'est, vous faites vos études, vous faites du métro-boulot, dodo, et avoir des enfants. Donc, à un moment donné, je me suis dit non, c'est peut-être ma vocation. D'ailleurs, une amie me posait la question, ô combien intéressante, sur laquelle je suis en train de travailler. Est-ce que l'homosexualité est une vocation? Est-ce que l'écriture pour Max Lobé aujourd'hui est une vocation? Ça, c'est une question qui m'intéresse.
J'adore comme vous parlez de vous à la troisième personne. Il faut ce décalage-là pour justement être écrivain, vous pensez?
Il m'a souvent semblé que parler de soi à la troisième personne était pris pour quelque chose de pédant, Non, en l'occurrence, je pense que ça permet de prendre la distance avec l'objet qu'on veut traiter et on peut être soi-même l'objet de sa réflexion. Si on n'arrive pas à comprendre ça, c'est que probablement on aura beaucoup de mal à dire des choses. Je ne suis pas là pour raconter l'histoire de ma mère, je ne suis pas là pour raconter l'histoire des familles. Moi, je me demande souvent, mais bon, voilà, ce que j'entends par littérature, c'est la possibilité de prendre mon histoire, de faire de moi un objet de recherche, mais en gardant la fiction. La fiction m'est chère plus que jamais. Et donc, pour la deuxième question, l'objet livre, là, on pourrait prendre toute une soirée. L'objet livre, c'est un objet d'art. Mais c'est un objet qu'on peut regarder comme un livre de photographie, comme un tableau. Mais ça veut dire qu'il est codé. Il faut le décoder. Et avec précisément, par exemple, la promesse de Safa l'excellence, je ne voulais pas renouveler seulement mon expérience de l'écriture, voyez-vous, mais aussi l'expérience de lecture. Parce que je trouve que le livre aujourd'hui, on a des livres de 700 pages, de 800 pages. Je les attaque souvent avec beaucoup de désarroi et de désespoir à la fin, parce que je me dis, mais tout ça pour ça, 50 pages auraient pu suffire. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, je pense que l'objet livre, c'est une œuvre d'art. Et après, il y a toute la question qui aujourd'hui est très, très importante pour moi. C'est qui me lit? Qui me lit?
Ça te préoccupe de savoir...
Qui me lit, pour qui j'écris. Parce que, écoutez, j'écris, je n'écris pas a priori, pour être direct, pour la petite maman qui vient de prendre sa deuxième dose de vaccin contre le corona. C'est une très bonne chose. En me lisant, elle s'ouvre à d'autres univers. Mais quand j'écris, je pense précisément à mes mamans africaines, mes mamans camerounaises, les jeunes. Hein, les jeunes, j'étais encore récemment au Bénin, beaucoup de jeunes, je pense à eux, et ça me chagrine, ça me fait assez mal de voir que tous les droits sont possédés pratiquement par l'Occident et qu'il est très difficile de renvoyer cette pensée à ceux pour qui elle a été élaborée a priori et voilà, en priorité.
Donc, si je vous comprends bien, Max Lobé, il y a un certain désarroi par rapport au fait d'être édité en Suisse par des maisons suisses qui s'adressent à un public suisse qui est qu'est-ce qu'il est, hein, avec l'âge que nous avons, tandis que dans les pays d'où vous venez, il y a une jeunesse, voilà, foisonnante, il y a vos racines, etc. Et vous auriez envie que vos livres percutent plutôt cette frange de la population-là plutôt qu'ici, c'est ça?
C'est pas tout à fait ça, ce n'est pas précis, parce que je suis tout à fait heureux d'être publié par Caroline Couteau. Mmh. La famille Zoé, Maman Zoé, c'est vraiment, elle, c'est une vraie éditrice. Hein. L'éditeur, c'est quelqu'un qui est à mesure d'écouter la voix de l'auteur et de l'accompagner comme on pourrait accompagner un chanteur. Non, ce qui me désole, c'est le fait qu'en Afrique, j'y vais assez souvent pour former des jeunes à l'écriture, à la critique littéraire, à plein d'autres choses. Parce que, voyez-vous, il ne peut pas avoir de littérature s'il n'y a pas d'écrivain. L'éditeur, il travaille sur le texte de quelqu'un. Donc, c'est ça qui me dérange, le fait que ces livres n'aient pas la possibilité de retourner.
De voyager.
De voyager parce qu'il y a des accords de l'OMC, parce qu'il y a des monopoles. Je ne suis pas là pour casser le monopole de qui que ce soit, je suis pour le libre marché. Mais j'espère que moi-même ou quelque autre personne, on va réussir à prendre cette petite part du marché africain et de faire lire des vrais livres, en fait des vraies questions au public africain, pas des histoires à l'eau de rose.
Max Lobé, on entend plein de choses dans cette réponse-là, peut-être aussi le désarroi que vous avez d'être ici et de ne pas pouvoir plus communiquer par rapport à vos idées, à la critique que vous avez peut-être sur votre pays d'origine, donc le Cameroun, qui est notamment dirigé depuis plus de 40 ans par Paul Biya, qui est donc un...
Papa,
c'est ça, comme vous l'appelez, et puis que vous, voilà, dont vous rigolez, dont vous vous moquez et dont vous essayez de justement créer une distance avec la promesse de Safa l'Excellence aux éditions Zoé.
Juste pour préciser là, il me semble important, bien sûr, je m'inspire du Cameroun qui m'a vu naître, mais la promesse de Safa l'Excellence, il traite de la tyrannie de manière générale. Mmh. Et la tyrannie, elle n'est pas que camerounaise.
Non, elle est partout. Et c'est vrai que c'est pour ça que ce livre a un côté universel aussi. Merci beaucoup, Max Lobé. Denis Ponté, vous avez bu les paroles de Max Lobé. Je vous voyais super attentif comme
oui,
ça.
Oui, oui. Je trouve très touchant. Et puis, tu as entièrement raison par rapport à ce rapport à l'édition et puis de pouvoir être présent en Afrique. Et... Moi, j'ai le réflexe inverse. J'aime bien me retirer parce que je suis toujours l'étranger. Et j'ai envie d'être le précurseur de quelque chose, mais pas être le, simplement l'étincelle qui puisse amener à quelque chose.
On va faire des étincelles en musique maintenant, mes chers. C'est Mani Dibango qui s'invite sur la première.
Personnalité. Dis la mbola thème. C'est gardé musique moi ou ne. Et tout comme mon même père, ben si pas. N'a même bien na. Quoi sont en bas. J'ai été du bagne bade bébé robola. De so cabello ni de oum. Motote na yao. Motote na yao. Besoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Omatoi mese, bana besoka na besoka. Ngona ya e bien ndi na wa namba nde njamu na kwana eso kape ya bien ndi mwese tona vonda yino bube bona etilanga bube nyola nje. Na ben no o wasonta ne olango e biamo ye kwadi yende besoka na besoka 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 na besoka que mi somongo besoka na besoka tumu tutomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besoka na besoka mbate bane besoka na besoka. Soy un sonandombi.
Manu Dibango sur La Première, un clin d'œil pour vous, Max Lobé. De la part de Jean-Baptiste Roumains, programmateur musical, à côté de vous, il y a Denis Ponté. Avec il va votre livre, Entre les mains, La promesse de sa fale excellence, paru chez Zoé. C'était en janvier dernier. Un livre qui reçoit un bon accueil, Max Lobé. Et puis, j'ai l'impression que ça vous donne le sourire derrière votre masque, mais j'ai de la peine à le voir. Voilà. Denis Ponté, vous êtes venu avec une cargaison de livres. Vous avez pour identité, le noir et blanc, l'argentique à la base, même si vous êtes passé au numérique, si j'ai bien compris, et cet appareil photo qui ne vous quitte pas, et avec lequel vous vous fondez vraiment, et avec lequel vous approchez des gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque dans Homo Artifacts, le livre que j'ai dans les mains. Vous êtes tout proche. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être proche des gens pour les photographier ?
Des fois, le recul est intéressant parce qu'on travaille sur un autre plan, mais quand on est très proche, il y a une interaction. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cet échange, d'avoir de la spontanéité. Donc, je suis pas quelqu'un qui mitraille. Généralement, je fais une ou deux photos, c'est tout. Mais j'ai besoin de cette complicité. Je suis pas tout seul. Je photographie des gens. Et je trouve que pour moi, c'est une manière de marquer un respect pour eux, et puis de l'autre côté, de pouvoir prendre cette essence, quoi, de d'être fort. Souvent ce que l'amateur a tendance à faire faux, c'est qu'il s'éloigne. D'ailleurs, un grand photographe disait que si on veut bien réussir une photo, il faut aller très près. Plus vous allez près, plus vous créez quelque chose.
Mais comment tu fais avec la distanciation sociale?
C'est difficile. Là, j'ai eu il y a pas très longtemps un portrait à faire où j'étais obligé d'avoir un masque et je pouvais pas faire la photo, c'était pas possible. Donc du coup, on a réussi à enlever le masque et à travailler comme il faut. Mais non, la distanciation sociale, c'est clair que ça crée un problème. La manifestation Black Lives Matter, ce qu'il y avait eu en juin à Genève. C'était la première manifestation après le confinement qui a surpris tout le monde parce qu'il y a eu un élan, il y a eu un monde qui est venu et du coup, là, il n'y a plus ce problème-là parce qu'il y a un ras-le-bol.
Denis Ponté, le noir et blanc, pourquoi est-ce que ça reste comme ça l'essence de votre identité photographique ?
J'ai toujours adoré le noir et blanc. Je fais un peu de couleur, mais c'est généralement des travaux plutôt techniques.
De commandes
et beaucoup plus techniques. Mais je préfère le noir et blanc parce que déjà, le fait de photographier, l'acte photographique, est déjà une interprétation d'un événement, de quelque chose. Quand vous cadrez, si on a une deuxième photo qui est hors cadre, ça va peut-être changer tout le sens de la photo que vous avez faite. Et ça, avec l'utilisation du noir et blanc, ça permet d'appuyer cette démarche qui est une interprétation de quelque chose. Ce n'est pas la réalité, c'est un grand mot. Je pense que entre les philosophes, on pourrait en parler pendant des heures. Et ça, je pense que c'est bien de le marquer, quoi, de marquer cette différence. Puis j'ai beaucoup plus de films de.
Pourtant, vous avez un œil documentaire. Enfin, tout ce que vous faites en termes de photographie, en tout cas dans votre travail artistique, c'est documentaire, Denis Ponté.
Oui, mais le noir et blanc n'empêche pas le documentaire.
Ça, c'est vrai, mais d'une certaine manière, je crois que je suis pas sûre de vous avoir compris à 100%. Donc, d'une certaine manière, le noir et blanc vous permet quoi ?
Le noir et blanc, déjà, cette transposition des couleurs au niveau de gris, je trouve que c'est quelque chose qui est génial. Et c'est simplement, moi, mon but, c'est d'interroger le spectateur qui va regarder mes images. Qu'est-ce qui va en ressortir ? Comment il va le percevoir ? Qu'est-ce qui va réfléchir à travers ces images ?
Donc, vous photographiez pour les autres et pas pour vous en premier, c'est ça ?
Non, en premier, c'est pour moi, mais je je trouve que c'est fondamental. Et puis je pense que c'est un peu ce que dans la discussion, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au souci de savoir ce que les autres, qui c'est qui lit, etc. Ben, à un moment donné, c'est comme un bébé quand on le met au monde, donc après il vous appartient plus.
Mais c'est quoi ta proposition?
Pardon?
C'est quoi ta proposition? Parce que si on ne peut pas simplement attendre, me semble-t-il, le retour du regard des autres, on leur propose, me semble-t-il, quelque chose avec deux, trois clés d'entrée, en espérant dans son fort intérieur que ce soit peut-être la clé numéro 2 qu'ils adoptent.
Tout à fait, mais justement, il y aura plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, au Bain des Paquis, on m'a fait le reproche, mon nom, il est en tout petit. Juste à un endroit. Donc les gens qui viennent juste regarder les images comme ça, ils sauront même pas que c'est moi qui ai fait les photos. Et ça, je trouve intéressant parce que si les gens sont touchés, ils vont devoir faire un effort pour aller plus loin. Et en même temps, si on veut bien comprendre la démarche de mon travail, il faut tout voir. L'exposition, il faut voir le livre, il faut lire les textes et il faut voir le film documentaire. Et c'est seulement si on regarde tout qu'on comprendra le message et les détails. Parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui sont pas compréhensibles comme ça. Et ceux qui ne le verront pas, tant pis.
En fait, c'est pour les curieux. Vous militez pour que les gens qui sont interrogés par votre travail aillent jusqu'au bout de la démarche, c'est ça? Vous les mettez au travail,
c'est ça? Je les mets au travail, et puis ce qui est intéressant, c'est l'échange. Parce que, justement, avec le Covid, comme c'est pas possible de faire, j'ai pas pu faire l'exposition telle qu'elle a été prévue, on a dû changer, ben, et pas qui, ça permettait de rendre la chose possible.
Et là, elle est accessible nuit et jour, c'est ça?
Elle est accessible nuit et jour parce qu'il ferme quand même la nuit, mais elle est accessible la plupart du temps.
Dans la zone du restaurant et sur le quai, c'est ça?
Exactement. Mmh. Et puis, je propose aux gens de me contacter pour faire une visite guidée. Pour leur
expliquer. Et les gens marchent? Ça fait déjà quelques jours qu'elle est dehors.
Oui, je pense que vous voyez que j'ai un peu de couleur à force d'être au soleil, au bain. Et là, il y a un échange qui est riche. Parce que justement, on se confronte aux spectateurs. Bien sûr, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas. Et l'échange, pour
donc
moi,
les gens
c'est
fonctionnent
ça.
Dans le sens, marchent dans votre démarche, si j'ose dire. Oui. Vous appellent, il y a un numéro quelque part, et puis vous faites après
un
la
email,
demande, c'est ça?
Un email, et puis voilà. Puis comme j'ai fait des cartes postales que je distribue partout, ben voilà, l'info elle passe, et puis les gens m'écrivent. Et ça, je trouve ça génial, parce que l'échange est primordial.
C'est ça. Oui. Denis Ponté, je vous ai demandé d'amener un objet qui vous tient à cœur et qui vous raconte un peu. Alors, vous avez pensé amener quoi aujourd'hui, à part vos innombrables bouquins?
Ben, j'ai hésité, mais je trouvais que c'était banal de sortir mon appareil photo parce que c'est
on en a parlé.
Parce que c'est mon fidèle compagnon. Mm-hmm. Mon deuxième choix était la machine à café. J'adore les vieilles machines à café.
En aluminium?
En aluminium, en toutes sortes de matières, mais vraiment celles qui ont plus de 50 ans. Mais c'était trop gros, trop compliqué. J'ai voulu vous ramener du café, le café pour qui j'avais travaillé en Amérique du Sud, mais malheureusement, le magasin était fermé, j'étais à court à la maison. Donc, du coup, je me suis rabattu sur un objet qui est aussi le symbole de la...
Le
symbole de la rencontre. Ça, c'est aussi pendant mon voyage.
Bah, décrivez-le parce que c'est un peu obscur pour moi. C'est une forme de bol en bois.
C'est un bol en bois. C'est un bol traditionnel qui, dans les Andes, on l'utilise pour les cérémonies et on fait de la chicha avec, c'est une sorte de bière alcoolisée avec du maïs rouge. Mmh. Et lors d'un de mes séjours et de travail là-bas, j'ai été tout un coup embarqué dans un mariage traditionnel. Et dans ce mariage traditionnel, il y avait cet objet.
C'est un bol en bois, mais il y a deux petits crochets à l'intérieur. On aurait deux petits éléphants.
Mais oui,
je sais pas
mais
si
c'est pas des éléphants.
C'est quoi?
Je pense que ça doit être plutôt des vaches, des bœufs ou quelque
plutôt,
chose comme ça.
Plutôt selon la région que vous décrivez. Oui. Oui, effectivement.
Et on a passé ce mariage avec eux et c'était vraiment très touchant. Et à la fin du mariage, ils sont venus vers moi et ils m'ont donné le bol. Ils m'ont dit voilà. Ah, ce bol est pour toi.
Donc ça dit quoi de vous, Denis Ponté? Ça veut dire que vous vous embarquez toujours dans des aventures où vous finissez par passer du temps avec les gens, que ce soit dans la jungle, dans un mariage. Finalement, c'est cette espèce d'adaptabilité que vous autorisez, cette volonté d'être embarqué, c'est ça?
Oui, et puis c'est ce qui ouvre des portes et qui fait découvrir des choses qu'on soupçonnerait pas.
Qu'est-ce qui vous a une fois complètement surpris, où vous vous êtes dit peut-être « Ouh, j'aurais peut-être mieux fait de pas mettre les pieds »
Je crois pas que je me suis posé la question. C'est plutôt les autres qui se posent cette question.
Ouais. Vous avez jamais été bousculé au point de vous dire, oh là, je suis allé trop loin, j'ai trop fait confiance ou...
Ouais, il y a eu des moments de peur, mais non. C'est... Après, la peur, elle passe, quoi. C'est pas. Non, j'ai pas ce sentiment-là.
Votre instinct vous a jamais joué des tours, c'est ça?
Non, c'est plus les autres qui ont eu peur, qui, d'un coup, essaient de me dissuader d'aller quelque part. Mais plus qu'on me dissuade, plus que j'ai envie. Donc.
Mais est-ce que ce bol ne signifie pas aussi les vœux de mariage, c'est-à-dire les souhaits pour toi de rencontrer quelqu'un parce qu'on voit ces deux vaches bien prises ensemble dans au milieu de l'assiette, ça veut dire que c'est pas une assiette pour manger.
Non, c'est pour moi.
Mais c'était peut-être un vœu pour que tu rencontres quelqu'un, ça a été le cas?
Non, parce que j'étais pas seul à ce moment-là, donc ça s'est raté. Mais non, puis moi, c'est vraiment ce que je trouve génial, quand on est accepté, quand on fait un travail puis qu'on est accepté, justement, on va vous inviter à venir chez eux, on va vous inviter dans les moments forts de leurs existences. Et pour moi, c'est la plus grande gratitude que je puisse avoir, parce que c'est vraiment qu'on est dans l'échange.
Et dans les moments forts en termes d'émotion.
Exactement.
Merci Denis Ponté pour ce bol en bois qui raconte votre, on va dire, vous êtes un addict des sensations fortes d'une certaine manière, je crois, on va dire ça comme ça aussi. Max Lobé, vous avez décidé d'emmener quoi comme objet?
Alors,
qu'à nouveau ce rire tout à fait printanier.
Alors moi, je voulais apporter un plug anal, doré avec une pierre à la base. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, doré mais métallisé, quelque chose comme ça. Je l'ai pas apporté parce que je me suis dit, oh là là, la RTS se passe déjà par des problèmes assez compliqués. Je vais pas porter un plug anal ici. Et puis bon, mais c'était un très bon cadeau de quelqu'un qui a fini par disparaître dans la nature de manière, j'ai envie de dire, problématique. Mais je peux comprendre. Hein. Vous savez, on peut avoir... j'écrivais un poème récemment. La question, c'est... Mais c'est quoi une histoire d'amour? Une histoire d'amour, finalement, c'est le toucher, c'est la sueur, c'est les doigts, c'est... mais c'est aussi ça, un plug anal, c'est pour préparer le fait de se connaître dans le sens biblique du terme. Il faut préparer donc l'endroit, et c'est un plug qui fait une dizaine de centimètres. Je trouve ça très beau. Je sais pas pourquoi vous êtes en train
mais
de
rire. Mais c'est pas, c'est hyper, en fait, c'est très intime ce que vous racontez là. Et c'est magnifique que vous osiez, l'exposer de manière aussi calme et en fait tout à fait posée. Mais... continuez seulement, Max Lobé.
Mais intime, j'entends, tout est intime finalement. Moi, j'ai fini par désacraliser le sexe et je trouve qu'il faut pas en faire un tabou. Surtout pas quand il s'agit des joies de Noël comme ça, des accessoires. Ça peut aider, voyez-vous, nous traversons une crise singulière où on a connu la texture de la solitude et donc quand on a ce cadeau, un objet d'art comme celui-là, qui est beau, qui fait du bien aux yeux et qui fait du bien au corps, ça tape dans la prostate de manière très agréable. Seulement, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas l'offrir à Denis quand même. Il faut pas exagérer, mais...
Donc, vous avez décidé de nous en parler, mais de pas l'amener, c'est ça, Max?
De vous en parler, parce que je trouve que c'est un très bel objet qui pourrait réveiller, qui pourrait défalanusser un certain nombre de personnes encore coincées. Ils ont besoin d'être libres, ils ont besoin de connaître... Ces trucs-là qui montent, vous savez, c'est comme si on germait. Il y a quelque chose.
Je suis désolée, j'ai de la peine à garder mon calme, mais je trouve ça super. À 14h52, il y a question Q. D'habitude, c'est le vendredi à 21h. Et là, on est dans premier rendez-vous. On parle de plaisir prostatique avec Max Lobé, tout à fait décomplexé.
Mais pourquoi pas? J'entends vraiment.
C'est le printemps, c'est ça.
C'est un très bel objet pour moi. Par ailleurs, qui peut coûter cher et que la personne m'a laissé en souvenir. Mais je me dis, même des hommes qui ont des compagnes, qui ont, voilà,
En fait, c'est votre message, c'est explorer le corps, c'est ça? Explorer
le corps, même quand on est, même quand on a une compagne et que on salue des garçons de temps en temps en route, c'est pas grave. Et puis, au lieu d'offrir seulement des fleurs, seulement une bouteille de champagne, seulement un abonnement CFF avec des lignes, on peut aussi offrir, voilà, un jouet sexuel qui par ailleurs permet à la personne de penser à soi.
C'est magnifique, Max Lebé. Denis Ponté, est-ce que ça vous, comment dire, provoque un commentaire, une question?
Non, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que tu n'aies pas amené l'objet et le talent d'écrivain de pouvoir tellement bien en parler qu'il pourrait être là devant nous.
Mais je l'ai surtout pas apporté parce que il faut prendre les gants. Il aurait fallu prendre les gants pour l'apporter ici, mais parce que c'est un objet d'art de valeur et aussi que ça a déjà cuisiné. Donc on ne peut pas. Il fallait le mettre dans une machine à laver et puis utiliser les gants pour pouvoir l'apporter. Donc, je me suis dit, oh là là, je préfère le garder dans un box en verre. Et puis, je vous enverrai peut-être une photo.
Qui sait. Et en tout cas, les auditrices auditeurs de Premier Rendez-vous peuvent voir l'objet. Si vous m'envoyez la photo, je leur renvoie pour
ça. Denis, c'est quand ton anniversaire?
Au mois d'octobre.
Au mois d'octobre encore.
Vous avez
j'ai
un peu de temps.
J'ai tout le temps.
C'est ça.
Ouais, je vais choisir le meilleur modèle pour lui.
Oh, j'adore. Bah, Max Lebé. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette liberté que vous avez à vous exprimer par rapport à votre intimité, votre sexualité, ben c'est quelque chose qu'on retrouve dans la liberté de la langue, comme vous la malaxez, comme vous osez en faire des nouveaux mots, dans La promesse de Safa d'excellence. C'est votre premier livre, j'ai l'impression, bon, j'en ai lu deux autres avant celui-là, mais où vous explosez carrément tous les codes au niveau
C'est le cinquième roman, pardon.
C'est le cinquième roman, mais moi j'en ai lu que deux, c'est ça que je voulais dire.
Mais vous êtes en retard.
Pardon Max, oh là là, attention, vous allez sortir le foie bientôt, quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous osez tout aussi là, avec la langue. C'est...
Alors... Ah ben, il faut tout oser avec la langue, en fait. Il faut y aller. Le sentiment peut être énorme. La langue du varan.
Bon, eh bien.
Bon, on se concentre.
On se concentre, on reprend notre calme. Et nous allons écouter de la musique sur la première avec, M, Mathieu Chédid, avec L'être infini et ce rire infini qui nous fait du bien. Allez, c'est pour la réouverture des terrasses, le printemps, la totale. On y croit. Premier rendez-vous, Mathieu Chédid sur la première.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous sur la première.
Sur l'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule loyale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mais lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? L'être infini que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. L'être infini que je suis.
L'être infini.
Parce que ta bouche a une fausse note, que c'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or c'est toujours quand ça frotte, quand ça trébuche que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? Je relis
l'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Oh, l'être infini que je suis.
L'être infini.
Une lettre dans la lettre, en quelque sorte.
L'être infini, infini.
Une
marche avec, au beau milieu, un simple M, une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes. Sans un mot, tout est dit, infiniment et pour la vie.
Mathieu Chédid sur la première avec ce titre « Lettre infinie ». Denis Ponté et Max Lobé sont les invités de Premier Rendez-vous qui se referme bientôt. Denis Ponté, vous, votre travail, on le retrouve au Bain des Paquis à Genève, accessible et gratuitement, hein, c'est ça?
Tout à fait. Et puis, il sera aussi accessible dès mi-mai jusqu'à fin juin dans 2-3 espaces à Genève, mais ça, je communiquerai plus tard.
Les gens qui sont intéressés par votre travail, peut-être vous avez un site internet, quelque chose, où vous regroupez toutes vos infos?
Alors, c'est homo-artifex.eu. Et voilà, là on peut m'écrire, il y a toutes les infos de tous les événements.
Merci beaucoup d'être venu les bras chargés de tous vos livres. En tout cas, c'est un plaisir de
plaisir
découvrir
partagé.
Votre travail. Merci beaucoup d'être venu ici.
Merci à vous.
Max Lobé, de votre côté, eh bien merci pour ce beau fou rire. Merci aussi pour tout ce que vous avez apporté.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle « La promesse de sa fale excellence » aux éditions Zoé. Et vous êtes actif sur YouTube en poésie aussi ces derniers temps. C'est quelque
Exactement.
Chose qui vous tient à cœur.
Exactement.
En régie aujourd'hui, merci à vous et au revoir. Voilà.
Merci beaucoup,
merci.
Pauline.
En régie,
merci,
c'était José Moreno qui assurait notre attaché de production. C'est Marilyn Regard. Les choix musicaux sont signés par Jean-Baptiste Roumens. D'ici quelques instants, la joie de retrouver Lucas Torrent pour à l'abordage. Il va être 15h sur la première. À demain.